À l'émission Sous l'Olivier, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre Généalogie spirituelle, animée par le regretté Jean-Guy Saint-Arnaud, jésuite, prédicateur et auteur.
C'est un fait, nous avons tous des parents, non seulement pour notre naissance physique, mais aussi pour notre mise au monde de notre affectivité, de notre intelligence et de notre liberté, de notre vie spirituelle. Nous avons des parents dans tous ces domaines. Et il est toujours fort pénible de se trouver orphelin sous un aspect ou un autre de notre vie, de ne pas reconnaître les personnes qui ont exercé sur nous des influences créatrices, des personnes qui nous ont marqués, qui nous ont façonnés au plus intime de nous-mêmes. C'est vraiment une joie que de découvrir nos pères et nos mères, les pères et les mères de notre cœur et de notre esprit, les parents de notre vie spirituelle. Quand on avance en âge, on se découvre le goût d'explorer sa généalogie. C'est sans doute là une façon de rendre grâce de l'héritage reçu de nos ancêtres, mais aussi de comprendre beaucoup mieux ce que nous sommes appelés à transmettre à nos fils et à nos filles spirituelles. J'aimerais, sous un mode de confidence, d'une manière très subjective, feuilleter avec vous mon album de famille et vous présenter quelques-unes des personnes qui ont marqué ma vie, de leur influence, et qui, à ce titre, devrait prendre place sur mon arbre généalogique. Vous ferez connaissance au fil des émissions de John Henry Newman, d'Ignace de Loyola, de François Varillon, de Victor Frankel, d'Etty Hillesum, de Pierre Van Brimen, de Jacques Leclerc et de Gilles Cusson. Toutes ces personnes ont croisé ma vie et l'ont alimenté. Laissez-moi vous présenter en tout premier lieu celui que je considère avec beaucoup de fierté comme le père de mon intelligence et de ma foi, pour autant que j'ai de l'intelligence et que j'ai de la foi, John Henry Newman. Remarquez qu'on ne choisit pas ses parents, ils nous précèdent toujours. Et il se donne à reconnaître avec gratitude. J'ai rencontré John Henry Newman à travers ses œuvres, bien avant mon entrée chez les Jésuites, alors que j'étais au collège encore. Je me souviendrai toujours du passage de son sermon sur le Christ manifesté dans le souvenir qui m'a si profondément bouleversé. Newman y décrit l'action de Dieu dans notre vie, action dont nous découvrons l'existence en nous d'une manière plus explicite, d'une manière privilégié lorsque nous tournons nos yeux vers nos premières années. Combien d'hommes, écrit Newman, nourrissent les pensées les plus tendres et les plus affectueuses envers ces premières années, mais ils ne savent pas pourquoi. il croit soupirer après ces années mêmes, alors que ce qui les attire en elles, c'est la présence de Dieu, qui, comme ils le voient maintenant, était alors avec eux. Ils croient regretter le passé, alors qu'ils ont la nostalgie de l'avenir. Ce n'est pas qu'ils voudraient redevenir des enfants, c'est qu'ils voudraient être des anges et voir Dieu. Texte merveilleux. Voici quelqu'un qui exprime ce que vous désespériez de vous dire à vous-même. Vous vous sentez percé, découvert, vulnérable. Vous n'êtes plus uniquement devant des mots, des phrases, mais tout à coup devant quelqu'un de proche et de très intime, avec qui vous en avez la conviction, vous pourrez parler de ce qu'il y a de plus secret en vous, sans rougir, toujours sûr d'être accueilli, toujours certain de trouver des correspondances, des affinités. Quand on lit Newman à plusieurs égards, c'est comme si on découvrait ce qu'on n'arrive pas à exprimer de soi-même. Mieux que je pourrais le faire, Maurice Nedoncel, un des grands connaisseurs de Newman, dans son livre sur la réciprocité des consciences, a exprimé admirablement le mystère de séduction que l'on trouve chez Newman. Si l'on consulte le témoignage des amis de Newman, si différent de lui par l'âge, la situation, les croyances, on s'aperçoit que chacun découvrait en lui son propre moi idéalisé. Il leur offrait l'intuition de ce qu'ils souhaitaient être au fond de leur âme. À son insu et au leur, ce moi caché, purifié, se dégageait de leur rencontre. Et c'est pourquoi ils avaient pour lui une attirance invincible. Ils portaient en lui un aspect d'eux-mêmes qui était plus réel que leur moi quotidien et dont ils avaient vécu jusqu'alors séparés. Ce moi inconnu leur avait pourtant été familier du premier coup. Il était à la fois plus nouveau et plus ancien que tous les masques de l'existence ordinaire. Et cette identité n'empêchait pas leur ami d'être tout à fait différent d'eux. Il ne développait ni dans son existence extérieure, ni dans sa vie privée, le canevas de ce qu'il leur apportait. Ce n'était pas un événement, ni une qualité, ou un exemple qui les attachait à lui. C'était quelque chose qui n'existait que dans la perspective de leur rencontre. Newman représente tout un monde à découvrir. Il a vécu près de 90 ans. Il a vécu une existence pleine, riche, une existence dramatique. cette existence a été marquée de nombreuses conversions, de nombreux revirements. Il est né à Londres un 21 février 1801. Il mourra le 11 août 1890. Au plein centre de cette longue vie, une date, 9 octobre 1845, sa conversion au catholicisme. Ce qu'il a vécu dans la première période, sa période anglicane, c'est une vie pleinement accomplie, en particulier comme professeur à l'université d'Oxford. Il était adulé, il était recherché par tous les étudiants. On parle de lui comme de la voix d'argent, silvery voice. Il savait captiver ses auditeurs. Il avait véritablement un don de pédagogue. Un événement est venu marquer cette vie comme professeur en 1832. Il entreprend avec son ami un voyage en Sicile, un voyage autour de la Méditerranée et en particulier en Sicile. Et il vivra au cours de ce voyage une expérience qui va le marquer. Il tombe malade. Il passe près de mourir. Cette expérience lui fait prendre conscience de la ce qu'on a appelé un appel particulier à réaliser de grandes choses à son retour en Angleterre. C'est comme s'il trouvait une vocation tout à fait spéciale pour initier ce qu'on a appelé le mouvement d'Oxford, un mouvement de renouveau dans l'Église anglicane, un mouvement inouï qui produira de grands fruits pour l'Église anglicane en particulier. C'est au cœur de ce renouveau de l'Église anglicane que Newman lui-même, après beaucoup de ses disciples, sera amené à se convertir au catholicisme. La période qui va de 1845 à 1890, alors qu'il est dans l'Église catholique, sera une période pleine de difficultés. Autant il était adulé comme professeur à l'université d'Oxford, autant il était mal perçu. On ne lui faisait pas confiance lors de sa période catholique. À Rome, on colportait des phrases comme celle-ci, « Newman est l'homme le plus dangereux d'Angleterre. » Lui-même écrit dans son journal personnel « Combien ma vie a été triste et solitaire depuis que je suis catholique. Là a été le contraste. Comme protestant, je trouvais ma religion triste, mais pas ma vie. Mais comme catholique, ma vie est triste, pas ma religion. » Les œuvres de Newman qui jalonnent sa longue vie ne sont jamais théoriques. Elles sont toujours liées à des appels concrets. Elles sont à la fois très subjectives. On a dit de Newman qu'il était l'homme le plus autobiographique qu'on a connu, point de vue religieux. Ses œuvres sont à la fois très subjectives et très objectives. C'est probablement une des caractéristiques de la pensée et des œuvres de Newman qui le place parmi les grands de la réflexion religieuse à côté de Pascal et de Saint-Augustin. Ses œuvres sont nombreuses, plus de 60 volumes. au-delà de 20 000 lettres. Et ses œuvres couvrent tous les domaines, des œuvres philosophiques, des œuvres théologiques. Il a écrit des recherches historiques. Il a écrit deux romans, de la poésie. Newman représente, à cause de cette variété de thèmes, un des plus grands esprits qu'a porté le 19e siècle, du point de vue religieux. J'aimerais vous présenter les œuvres les plus importantes pour vous donner les thèmes qui préoccupaient Newman. Très brièvement, la première œuvre marquante, ce sont les sermons universitaires, une œuvre magnifique. Newman était invité, les professeurs étaient invités chaque année à Oxford à présenter au début de l'année une large prédication. Ce sont des conférences plus que des sermons, comme on l'entend aujourd'hui. Newman a publié les sermons qu'il a donnés de 1826 à 1843, une quinzaine de sermons, où l'on découvre, dès le début, tous les thèmes, toutes les clés d'interprétation de sa pensée, qui se développera par la suite. La deuxième œuvre qui attire notre attention s'intitule « Essai sur le développement de la doctrine chrétienne ». Ce livre a été écrit dans la douleur de l'enfantement, si on peut dire, alors que Newman était en train de se convertir au catholicisme. Il devait quitter ses amis. Il devait entrer dans un milieu, les catholiques, qui était alors un milieu de personnes ostratisées, c'est-à-dire des personnes qui n'avaient pas le droit de participer aux charges publiques, qui devaient prêter le serment du test, des personnes qui n'étaient pas tellement développées du point de vue intellectuel, parce qu'ils n'avaient pas accès aux universités. Newman a écrit un essai sur le développement de la doctrine chrétienne pour critiquer ses positions sur l'Église d'Angleterre qu'il concevait comme l'Église fidèle à l'Église primitive, considérant que le catholicisme avait ajouté des choses et que les protestants avaient retiré, retranché des choses. Et au terme de sa recherche sur le développement de la doctrine chrétienne, il a vu clair, il a vu que la via media n'était pas précisément viable, et il s'est converti. Il termine son livre en citant la parole du vieillard Siméon : « Tu peux laisser partir en paix ton serviteur, Seigneur. » une autre œuvre classique que Newman publiera par la suite, c'est son idée d'université. Il fondera l'Université de Dublin en 1851 et à cette occasion développera toute une pensée sur l'idée d'université, le sens d'une université. Encore aujourd'hui, dans le domaine de l'éducation, ce livre a une grande influence. Et vous savez peut-être que dans les universités, en tout cas les universités anglaises, il y a toujours un Newman Club, comme on appelle, où se réunissent les étudiants catholiques. On appelle Newman Club précisément pour rendre hommage à Newman et son travail qu'il a fait pour rendre possible l'éducation des catholiques dans les universités anglaises en particulier. Son œuvre peut-être la plus connue, qui en fait l'émule de Saint-Augustin, c'est son Apologia pro vita sua, publié en 1864. À cette période, Charles Kingsley accuse Newman de malhonnêteté intellectuelle alors qu'il s'est converti au catholicisme. Newman va réaliser ce tour de force de renverser les perspectives alors qu'il est accusé de malhonnêteté intellectuelle en convainquant tous ses lecteurs que sa conversion est tout à fait légitime. Et pour ce faire, il décrit l'histoire de son devenir spirituel. Ce sont vraiment l'Apologia pro vita sua et vraiment le parallèle des confessions de saint Augustin. C'est un livre très émouvant. Il a publié chapitre par chapitre dans les journaux. Les gens s'arrachaient les journaux pour découvrir petit à petit comment Newman avait cheminé. Et enfin, une dernière grande œuvre qui est plutôt philosophique, qui elle aussi répond à des appels ou à des besoins. Newman avait un ami, William Froude, qui était un ingénieur et qui avait beaucoup de difficultés à entrer dans la perspective des convictions religieuses. Et il disait à Newman, on n'a pas le droit d'avoir des certitudes qui ne sont pas basées sur des preuves. La grammaire de l'assentiment veut dire que la certitude est possible chez les gens simples, ceux qui ne sont pas savants, ceux qui ne sont pas capables de déployer des preuves. L'enjeu de la grammaire de l'assentiment, c'est répondre à la question « Comment notre raison peut légitimement croire ce qu'elle ne peut pas explicitement prouver ?» Dans le fond, c'est la foi des humbles qui est exploré dans ce livre, un très beau livre, qui développe ce qu'on pourrait appeler l'intelligence familière par opposition à l'intelligence scientifique. Dans tous ses livres, Newman développe des thèmes, le thème de la conscience qui est un thème majeur pour Newman. C'est par la conscience que Newman découvre Dieu. On raconte que dans un cocktail, quelqu'un lui demande est-ce qu'il pourrait porter un toast au pape. Et Newman aurait répondu, si ça se fait, je peux bien porter un toast au pape, mais d'abord je vais porter un toast à ma conscience. Parce que pour lui, la conscience, c'est la chose la plus élémentaire, la chose première, qui fait que nos décisions sont des décisions humaines. L'autre thème, après le thème de la conscience, c'est le thème du développement. Si on identifie le mot « évolution » à Darwin, on identifie le mot « développement » à John Henry Newman. Pour lui, le fait qu'on soit vivant, c'est que on est en développement, on est en devenir. Un autre thème qui est très newmanien, qui est une sorte de marque de commerce de Newman, c'est l'expression « réaliser », « to realize », « to make it real ». Newman explicite beaucoup la distinction entre quelque chose qui est notionnel, des belles idées, à quelque chose qui rejoint la réalité. En fait, un autre thème propre à Newman, sur lequel je voudrais m'arrêter d'une manière spéciale, c'est ce qu'il appelle le « surrender », se livrer. Se livrer au Seigneur, s'abandonner totalement à lui. Ce thème rejoint ce qu'il appelle les risques de la foi. Couper les amarres, partir à la grande aventure de la foi. Et dans ce sens, Newman dit que la chose la plus importante, c'est to bend our stiff neck, vraiment se soumettre soi-même. Je voudrais lire une de ses prières qui est caractéristique de ce surrender. Une prière qui rejoint chez les spirituels l'abandon total entre les mains de Dieu. Fais de moi ce que tu veux. Entre tes mains, je me remets tout entier. Tu m'as créé pour toi, je ne veux plus penser à moi-même. Je veux te suivre. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Permets-moi de faire route avec toi, que ce soit dans la joie ou dans la peine, je veux t'accompagner. Je te fais le sacrifice des souhaits, des plaisirs, des faiblesses, des projets, des pensées qui me retiennent loin de toi et me replient sans cesse sur moi-même. Fais de moi ce que tu veux. Je ne marchande pas. Je ne cherche pas à savoir à l'avance quels sont tes desseins sur moi. Je veux être ce que tu veux que je sois. Je ne dis pas « je veux te suivre où que tu ailles, car je suis faible. » Mais je me donne à toi pour que tu m'y conduises. Je veux te suivre dans l'obscurité. Et je te demande que la force nécessaire. Ô Seigneur, fais que je porte toute chose sous ton regard pour demander ton consentement à chacun de mes vouloirs et ta bénédiction sur chacun de mes actes.
Vous venez d'entendre « Sous l'Olivier » avec Jean-Guy Saint-Arnon, jésuite, prédicateur et auteur.